Cours de philosophie première de Père Marie-Dominique Philippe, le 21 octobre 1999 à Saint-Jean-d'Or.
Nous allons, après avoir bien précisé que le point de départ philosophique d'une philosophie réaliste, d'une philosophie qui atteint la sagesse. Alors, ça, vous voyez, cette affirmation qu'une philosophie atteint la sagesse, je ne peux l'affirmer que quand moi-même je l'ai atteint. Mais je peux dire que certains l'ont atteint. Il y a des philosophies qui ont atteint la sagesse et d'autres qui ne l'ont pas atteint. C'est du reste, je crois, toujours ce qui est très intéressant quand on essaie de voir les autres philosophies, c'est de voir jusqu'où la philosophie a cherché la vérité, qu'est-ce qu'elle a atteint, en définitive. Alors, il y a trois positions. Il y a la position de ceux qui nient la possibilité de dépasser le mesurable, dépasser ce que je peux expérimenter, l'expérimentation. Pas l'expérience, hein, l'expérimentation, c'est pas la même chose. Ceux qui cherchent et disent « Voilà ce que j'ai découvert. » L'homme, et j'ai découvert l'homme dans ses diverses expériences, et j'ai découvert l'homme dans son désir d'absolu. Mais je ne sais pas quel est cet absolu. Et puis, je vois que d'autres philosophes ont atteint vraiment, par la recherche de la vérité, c'est toujours cette recherche de la vérité qui me permet de me dépasser et de dépasser l'homme. De dépasser l'homme parce que l'homme est en compagnie, en présence d'autres hommes. Et par le fait même où c'est lui qui est le terme, ou c'est l'autre qui est le terme. Et il s'aperçoit vite que c'est ni l'un ni l'autre. Dire que je suis le terme de toute la philosophie, ça prouve que je n'ai pas compris la distance qui existe entre ceci et je suis. Je suis est dépassé par l'autre. Quand je dis je suis, et l'autre qui dit je suis. Or, le je suis de l'autre, je ne peux pas l'atteindre par mon je suis. Alors, il y a donc quelque chose qui me permet d'atteindre l'autre. Comment puis-je atteindre l'autre? Vous voyez, le dépassement du je suis s'impose par la découverte de celui qui est à côté de moi, qui vit à côté de moi. Je peux évidemment le nier, mais le nier, ce n'est pas philosophique. Pourquoi ? Parce que c'est de ramener tout à mon expérience. Or, je suis obligé de reconnaître que dans ma vie pratique, je ne nie pas l'autre. Dans ma vie pratique, je me sers tout le temps de l'autre. Si je me sers de l'autre dans ma vie pratique, ça prouve qu'il existe et qu'il m'apporte quelque chose. Vous voyez, la terre vient au service de la femme. C'est cette parole très mystérieuse et très forte de l'Apocalypse. La terre vient au service de la femme. C'est que je suis obligé de reconnaître qu'il y a autre chose que moi. Et la terre vient au service de la femme. C'est l'importance des ateliers. Quand je travaille la terre, quand je travaille le bois, qui est la terre, qui est l'autre, je suis obligé de reconnaître qu'il m'apporte quelque chose. Et je suis obligé de reconnaître par là que l'autre, mon voisin, celui avec qui je vis, m'apporte quelque chose. J'aboutis comme ça petit à petit à l'amitié. L'autre, quand je le fais, je le façonne, je travaille avec lui. Il me permet de sortir de moi. Et c'est énorme. Il me rectifie. C'est l'importance des ateliers. Si je raisonne tout le temps en restant dans mes idées, je peux rester dans mes idées et croire que je n'ai plus besoin de l'autre. Et alors, à ce moment-là, je m'enferme et je diminue moi-même, puisque je nie l'autre. L'autre, c'est premièrement la matière. L'autre, c'est premièrement, comprenez bien, dans la recherche génétique, je reconnais l'autre. Et puis, progressivement, j'aime. Vous voyez, c'est curieux comment l'amour va être un moyen merveilleux pour moi, l'amour d'amitié, un moyen merveilleux pour moi de faire craquer le je suis. Quand vous aimez l'autre, vous ne pouvez plus dire que le je suis, c'est votre seule réalité. Non. L'ami s'est imposé à vous. Et l'ami, c'est l'autre. L'ami a quelque chose d'irréductible par rapport à votre amour pour lui, puisqu'il est source de votre amour. Dans l'amour d'amitié, vous êtes bien obligé de reconnaître que c'est l'ami qui est source. Et ceci, c'est l'expérience la plus forte de l'autre, c'est l'ami. Et là, on voit comment l'amour d'amitié est la frontière merveilleuse entre ceci est et je suis. C'est peut-être pour nous, avec la féminologie d'aujourd'hui, qui est si forte, le seul moyen de dépasser la féminologie. Nota bene, puisque ce n'est pas philosophique, mais c'est quand même philosophique. Le Saint-Père demande aux philosophes d'être attentifs à Husserl. C'est intéressant, parce qu'il a beaucoup aimé Edith Stein, il a lui-même été formé par la féminologie. Et il a vu qu'il fallait la dépasser. Et il recommande qu'on regarde attentivement au plan du philosophique où est le dépassement pour nous de la féminologie. Quel est le dépassement propre? Bon, on a discuté la dernière fois hier, on a discuté sur ceci est et je suis. C'est une discussion philosophique très importante pour nous, mais quand on est déjà très enfermé dans le « je suis », c'est très difficile d'en sortir. Alors il y a une petite porte de service. Vous savez, quand le grand escalier est condamné, il y a une petite porte de service. Et la petite porte de service est très très utile. Quelle est la petite porte de service? C'est l'amour d'amitié. Parce que là, c'est pas la spéculation, c'est l'expérience. Nous avons tous fait plus ou moins, je dis plus ou moins, l'expérience de l'amour d'amitié. Un gosse, c'est même très très beau à voir ça. Un gosse fait très très vite, un tout petit enfant, fait très très vite l'expérience de l'amour d'amitié. Ce n'est pas l'amour d'amitié vrai, mais l'expérience de sa mère. Et qui est pour lui la première expérience de l'amour. Enfin, j'aime rappeler ça. Et ça, c'est un fait actuel. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps. J'avais une de mes sœurs, bénédictine, qui avait été demandée d'être la supérieure. Elle n'était pas de cette congrégation, d'être supérieure des bénédictines du Mont des Oliviers, à Jérusalem, se trouve juste face à la ville. Au-delà, il faut passer le Cédron pour être là. Une situation merveilleuse, du reste. Alors, elle m'avait demandé si je pouvais venir tous les ans prêcher la retraite là-bas. Vous comprenez que c'était une très bonne aubaine d'aller prêcher la retraite à Jérusalem tous les ans et puis de profiter de prêcher la retraite à d'autres religieuses. Et étant sur ce lieu magnifique, Mont des Oliviers, elle pouvait voir Jérusalem en face, sans être dedans, Jérusalem en face. Alors, le régime arabe que Jérusalem avait avant permettait aux contemplatives religieuse de vivre avec la prise de Jérusalem, on passe à un régime différent, celui du peuple juif qui était très lié évidemment à l'Amérique. On passe donc dans un régime de vie qui fait que pour les religieuses, c'était très difficile à vivre. C'est sûr, c'est pas du tout la même chose. Pour toutes les religieuses et surtout les contemplatives, l'aspect économique devenait impératif. Alors il y a quelqu'un qui est venu leur donner un très bon conseil en leur disant, mes sœurs, c'est ma sœur qui m'a raconté ça, mes sœurs, vous pourrez vivre si vous faites des petits sachets de la Terre Sainte. Vous êtes sur le mont des Oliviers, c'est étonnant. Sur les monts des Oliviers, là, vous avez la possibilité de faire des petits sachets pour de la Terre Sainte, et je m'occuperai de les vendre aux États-Unis. Alors, ma sœur a bondi, elle dit, on ne vend pas la terre du Christ. Non, non, allez autre part. On ne vend pas la terre du Christ. La terre. Oui, la terre sainte, la terre vient au service de la femme. Maintenir cette espèce de liberté, de gratuité de l'amour, c'est le combat constant aujourd'hui. Hein. Faut bien dire ça. Et même intérieur pour chacun d'entre nous, entre l'efficacité et la gratuité. Je crois que c'est vraiment le combat propre de notre monde d'aujourd'hui. Et nous le retrouvons au point de vue philosophique. L'efficacité et la gratuité. La gratuité, c'est l'amour. La gratuité, c'est accepter ceci est. Qu'il y a un autre. Qu'il y a un autre qui s'impose à moi. sais pas pourquoi. Hein. Pourquoi l'autre est gratuite? Je l'accepte ou je le refuse? Alors quand c'est la terre c'est la bonne terre. Hein. C'est dit dans l'Écriture, la bonne terre. La bonne terre. On lui confie la semence et il y a une fécondité. C'est très important, ça. Et c'est dit pour le chrétien, c'est important de voir l'importance de la terre. Sauvegarder la terre du Christ, être gardien de la terre du Christ, gratuité absolue. Cette gratuité s'impose à nous dans l'ordre de l'amitié qui me fait découvrir l'autre, l'ami. Il y a un combat en nous, un combat qui est un combat spirituel, hein, qui va très loin et qui est philosophique, c'était humain ça. Le combat qui consiste à s'arrêter à la joie d'aimer et s'arrêter à l'autre que je ne possède pas, qui m'est donné gratuitement. L'efficacité suprême, c'est la joie d'aimer. Et c'est vraiment l'efficacité, la joie d'aimer. Une plus grande efficacité que tout le reste. Et quand je dis la joie d'aimer, je demeure dans le je suis. Quand je touche l'autre, l'autre comme l'ami, comme celui qui est source de ma joie d'aimer, la vraie source de la joie d'aimer, c'est pas moi, c'est mon ami. Et quand je comprends que la source de la joie d'aimer, c'est l'ami, je dépasse l'efficacité et je découvre la gratuité. Vous voyez? Le combat le plus net dans le monde d'aujourd'hui et dans notre vie spirituelle, hein, dans notre vie monastique. Ce combat, vous commencez à le comprendre au noviciat. C'est sûr. Puis, on l'oublie. Très vite, quand on est en contact avec l'efficacité. Et que l'efficacité commence à l'emporter. Et je perds le sens de la gratuité. Et je ne vis plus que pour l'efficacité. Mon honneur. Mon honneur. Mon honneur d'artiste. Me faire un nom d'artiste. Efficacité. Et ça, c'est l'amour. De la joie que j'ai d'aimer, l'amour que j'ai la joie de faire quelque chose, c'est l'amour de moi. Le je suis très vite se transforme en amour de moi. Et c'est la source de toute gratuité, c'est la source de toute efficacité, l'amour de moi. Dans l'amour d'amitié, il y a un moment où je comprends. Intérieurement, par une expérience interne, je comprends que cet amour d'amitié, il a une source qui est au-delà de moi, l'ami. L'amour, l'ami existe. Et c'est lui qui est source de mon amour. Et j'ai beaucoup de peine à accepter ça dans le monde d'aujourd'hui. Parce qu'au fond, l'ami, je ne peux pas le manipuler. L'ami s'impose à moi comme celui qui est autre que moi, qui est avec son charme, sa séduction, et qui est plus profondément comme quelqu'un que je dois respecter. Je ne dois pas détruire cette source. Si je détruis cette source, je me détruis moi-même. quant à la source de mon amour gratuite. Je crois que ça, c'est très important pour nous. Vous voyez, c'est là où je combats directement la fémologie. La fémologie ne peut pas expliquer la source de mon amour dans l'amour d'amitié. J'expérimente cet amour d'amitié et je peux, par la fémologie, expliquer comment cet amour d'amitié s'impose à moi et peut arriver à tout prendre. L'amour d'amitié peut éveiller en moi la passion. Et si je ne suis pas très attentif, ça peut faire que progressivement cet amour d'amitié va se corrompre par la passion. C'est vrai, ça. Et je ne vois plus tous les autres qu'à travers la passion. Et le monde se distingue en moi par ceux qui sont mes amis et ceux qui sont mes ennemis. C'est terrible, ça. Je n'arrive pas à dépasser la passion. Parce que la passion, c'est ce qu'il y a de plus intime à ma conscience. Je ne dis pas ce qu'il y a de plus profond, mais ce qu'il y a de plus intime dont j'ai conscience. J'ai conscience de la passion. J'ai conscience d'aimer. J'ai conscience d'aimer follement, d'aimer au-delà de ma prudence, d'aimer de la manière la plus visible pour moi et qui me fait vivre. Mais je reste enfermé en moi. Alors voyez, le « je suis » me conduit à cet amour de moi-même exalté par la passion. La passion de concupiscence ou la passion de colère, œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent, c'est phénoménologique, ça. C'est très curieux. Hein. Et Jésus a combattu cela. La lutte de Jésus en face des pharisiens, c'est la lutte de revenir à la réalité contre le « je suis ». Contre le moi qui prend tout. Mais je crois que si nous sommes intelligents dans notre lecture de l'Évangile, je dis bien si nous sommes intelligents dans la lecture de l'Évangile, la lutte de Jésus contre les pharisiens, c'est la lutte de la découverte de l'existence de l'autre face à cette emprise si violente du moi que j'aime, moi que j'exalte, moi auquel mon irascible veut toujours se venger. C'est l'irascible qui veut se venger, œil pour œil, dent pour dent. Il m'a fait ça, eh bien je l'aurai. Il verra. Très curieux, vous verrez ça, constamment. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est ça. Pas besoin de faire de la psychologie, hein. C'est bien plus radical que la psychologie. C'est là le mal. Le mal est là. Si vous acceptez ceci est, vous restez dans le réalisme. Vous comprenez que l'existence de l'ami, alors à tous les degrés, le grand ami, c'est le Christ. Vous n'êtes plus des serviteurs, mais mes amis. Et à un moment dans notre vie, où cette parole nous est dite, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais mes amis. Et quand Jésus dit, vous êtes mes amis, on découvre Jésus comme l'autre. Et je le découvre comme l'autre. Je peux le découvrir comme autre, directement par ma foi, c'est sûr. Et voyez, si je reste dans l'absolu du je suis, vous ne rencontrez plus jamais Jésus. Alors ça, évidemment, là, je fais appel à une autre expérience que l'expérience humaine. Je fais appel à l'expérience de ma foi. Je fais l'expérience, l'appel de ma vie chrétienne. Mais je vois cela. Et je crois que c'est très important. Si je suis chrétien, de voir que la phénoménologie m'enferme dans un pharisaïsme intellectuel. Nous vivons aujourd'hui de ce pharisaïsme intellectuel, qui est le pharisaïsme le plus terrible qui soit. Parce que c'est le pharisme qui corrompt ma vie intellectuelle, et qui ramène toujours ma vie intellectuelle à moi. Et je ne peux juger des autres qu'en fonction de moi. Mais je dis ça, c'est parce que notre vie philosophique, pour nous, se fait à l'intérieur de notre vie monastique, se fait à l'intérieur de notre don total à Jésus. Et nous devons donc, toujours, devons le faire constamment, devons toujours comprendre. Est-ce que ce que je découvre au point de vue philosophique, est-ce que c'est une répercussion sur ma vie profonde de chrétien? Je crois que c'est ça l'encyclique du pape. Et ce qui m'a impressionné, moi, dans l'encyclique du pape, c'est que le pape commence cette encyclique pour montrer que la foi, c'est présent à toute notre vie. Le petit enfant a confiance en sa mère. Instinctivement. C'est très beau. Il a confiance en sa mère. Ce sont deux êtres qu'on ne peut pas séparer. Et si vous, la mère vous confiera son gosse, tenez mon père, vous le prenez et puis il se met à crier. Ah, c'est l'autre. Il n'a pas du tout envie que vous le preniez. Il n'a pas confiance. Et vous le déstabilisez profondément. Et vous le rendrez, et vous le rendez très vite à la mère. Parce que c'est pas la peine de le faire crier, cet enfant. C'est de la gratuité, là. C'est la première expérience, hein. Et alors, je disais, j'allais régulièrement en Israël. Et ça m'a intéressé beaucoup de visiter les kibbutz religieux. Parce que ça faisait partie d'un point de vue politique et d'une politique religieuse. C'est très étonnant de voir ça. Et de voir ça à la naissance. C'est très intéressant. Au point de vue philosophique, c'était palpitant. Je fais cette visite. Et puis j'interroge sur l'éducation. Ça m'intéressait. Alors on dit, ah oui, le plus grand mal pour l'homme, pour son développement, c'est la mère captative. Donc il faut à tout prix supprimer ça. Parce que quand on laisse ça, on ne peut plus en sortir. Et on devient alors entièrement dépendant de l'autre. Donc, ce qu'il faut, c'est retirer l'enfant tout de suite de sa mère. Et faire à côté de la famille une autre famille qui serait l'État, avec des infirmières compétentes qui seraient les mères de ces enfants au point de vue éducation. Donc séparer la maternité captative de la mère, commandée par l'amour de la mère pour son enfant, et puis mettre des infirmières très bonnes, intelligentes, qui vont prendre ces petits, et on donnera l'enfant à sa mère 2 heures par jour, mais pas plus. On ne coupe pas l'enfant de la mère, on lui laisse 2 heures. On lui apporte l'enfant le matin, à l'heure, c'est réglé avec les parents. Jamais la nuit. Donc on le retirera toutes les nuits. J'ai écouté ça, ça m'intéressait. Et je me dis, pauvre gosse, pas drôle. Je reviens plusieurs fois, mais au bout de 10 ans, l'occasion se présente à moi pour visiter de nouveau ces kibbutz religieux. Alors, je visite celui qui était le guide, était un Espagnol. Très visiblement, c'était un chrétien qui était revenu à sa foi juive. La manière dont ils me recevaient, c'était très très net. Alors il fait visiter la visite, j'étais avec un groupe. On avait le droit de poser des questions. Alors pendant toute la visite, il ne dit pas un seul mot sur l'éducation. À la fin de la visite, je lui dis, mais j'aimerais savoir comment vous éduquez, comment de fait, en ce régime, on éduque les enfants. Alors, il sourit. Il dit, bonne question, père. Alors qu'est-ce qu'on dit? Ah, on a vu assez vite, au bout de quelques années, que ces enfants qu'on voulait éduquer en dehors de la mer s'éveillaient beaucoup moins vite à la vie de l'intelligence. Il y avait un manque qui se répercutait sur la vie de l'esprit. Et par le fait même, ils avaient pratiquement, presque tous, un an en retard pour le développement de l'intelligence, dans le conditionnement. Alors, on a cherché, on a dit, ah, ça doit être ça. Ces enfants ont manqué d'un amour premier, fondamental, que personne ne peut donner, en dehors de la mer. Alors, on laisse maintenant les enfants à leur mère. Et on demande aux mères d'être très attentives à l'affection qu'elles doivent donner à leur enfant et de dépasser cette mère captative. Mais on reprend les enfants à 13 ans et 14 ans. Parce que vous savez bien, 13 ans et 14 ans, c'est le moment des luttes. Le garçon veut être comme un père, la fille veut être comme la mère. Alors ça ne va pas. Alors on les prend à 14 ans, 13-14 ans, et on les rend aux familles tous les jours, un petit moment. Mais ils sont éduqués autrement. J'écoute ça, tout le développement, pour dépasser la rivalité de l'enfant à l'égard de ses parents, pour dépasser cette jalousie. Alors je lui ai simplement dit, je reviendrai dans 10 ans. Alors il a éclaté de rire. Mais très bien, père. Venez dans 10 ans. Parce que la jalousie, c'est le mal le plus terrible. La jalousie, c'est quoi? Point de vue philosophique. C'est de ne pas accepter que l'autre passe devant moi. Donc, la jalousie arrête le jugement d'existence. Empêche le jugement d'existence, de reconnaître l'autre. Or, la jalousie en famille se corrige beaucoup plus profondément que la jalousie en dehors de la famille. En dehors de la famille, c'est une jalousie politique, seconde, qui est forte, hein. Regardez la jalousie des partis politiques. C'est farouche, c'est terrible. Le seul moment intéressant, c'est le jour des élections, d'écouter les. Et de voir comment les différents partis acceptent d'être vaincus ou d'être victorieux. C'est extraordinaire de voir ça. Le bien du pays, on s'en fiche, mais on regarde le bien du parti. Donc c'est la mort de la politique. Parce que la politique, c'est l'autre. C'est l'autre qu'on aime. L'autre qu'on aime, c'est le peuple qu'on doit commander. Or, on fait passer avant la jalousie du parti. Et la jalousie du parti, c'est la jalousie la plus visible, parce que celle-là, on ne s'en cache pas. La jalousie personnelle, on s'en cache. Mais la jalousie politique, genre, pas du tout. On croit que ça n'existe pas et que c'est un bien. Et c'est une jalousie farouche qui tue le bien commun, qui tue le véritable sens politique. Mais autrement dit, on retrouve au plan politique, la primauté du moi, du parti, en face du bien commun qui respecte l'autre. Oui, il faut constater ça. Ça fait partie de notre expérience actuelle, ça. Ça fait partie de ce qu'on essaie de comprendre au plan philosophique et de saisir le mal. Où est-ce qu'il est le mal? C'est qu'on n'accepte pas l'autre. Alors, on veut rapporter ça, la première expérience, en disant que vous avez eu un jumeau. Alors, il y a l'autre qui est présent, n'est-ce pas? Mais le jumeau peut disparaître. Alors, à ce moment-là, vous avez tout. Il n'y a plus l'expérience de l'autre. C'est très curieux, vous voyez, on est là en présence de quelque chose qu'on doit creuser. Je vous le dis pour que vous le creusiez, pour que vous soyez attentif à ça. Le dépassement du moi, le dépassement du je suis, pour découvrir l'autre, pour découvrir l'autre qui existe, qui n'est pas moi. Parce que vous pouvez très bien accepter l'autre dans l'ordre qualitatif. Mais l'autre, oui, mais l'autre, c'est mon ami. Donc il m'est semblable. Et je l'aime en tant qu'il est semblable à moi. Mais l'autre, en tant qu'il est semblable à moi, ce n'est pas l'autre. C'est moi qui me projette dans l'autre. Et je ne découvre pas l'autre. Découvrir l'autre, c'est découvrir l'autre qui existe. Et qui existe en présence de moi, en face de moi, et qui m'apprend toujours quelque chose, parce que je le respecte. Et je conçois que l'autre existe autrement que moi. Dans son existence, il est autre que moi. Et donc il m'apporte quelque chose. Tandis que si vous regardez l'ami en tant qu'il est semblable à vous, en tant qu'il est la doublure, en tant qu'il est la glace dans laquelle je me regarde. Je m'amuse toujours, c'est une petite expérience qu'on peut faire, tu vois, quand on voit un petit chat en face d'une glace, une grande glace. L'émotion du petit chat, il lève la patte, l'autre, parce que pour le petit chat, c'est sa cogitative, hein, c'est son estimative qui dit l'autre lève la patte. Extraordinaire. Hein. Je me retrouve dans l'autre. Il lève la patte. Puis il fait d'autres gines. C'est admirable. J'ai découvert l'autre qui est tout à fait semblable à moi. Alors l'autre qui est tout à fait semblable à moi. Alors, ah, vous voyez le parti politique. Le parti politique contre le sens de l'autre, c'est le petit chat qui lève la patte. Et je retrouve comme ça, ah, on est semblables, on pense ensemble de la même façon. C'est comme c'est merveilleux. Qu'est-ce qui est merveilleux? C'est se retrouver dans l'autre. C'est pas découvrir l'autre. C'est très fort ça. La similitude, hein. C'est d'ordre qualitatif. Je découvre l'autre. Et je vous dis, la première découverte de l'autre, c'est dans la glace, mais c'est pas du tout la découverte de l'autre. C'est la découverte de ma doublure, de mon jumeau, dans la glace. C'est merveilleux. C'est étonnant. Il y a un autre chat qui a poussé en même temps que moi et fait exactement tout ce que je veux. Il ne me contredit jamais. J'ai toujours les initiatives. Oh, c'est merveilleux, ça c'est l'ami merveilleux. Je me retrouve en lui. C'est extraordinaire. Réfléchissons bien. Est-ce que la fémologie, est-ce que c'est pas la découverte de la glace? Où je me répète exactement. Où l'autre, c'est toujours moi. C'est étonnant, ça. Et je découvre là quelque chose qui me rassure. Jusqu'au jour où je dis, mais c'est moi. Alors à ce moment-là, il y a la panique. Alors, la découverte de l'autre, le petit chat ne la fait pas. Hein. Ce petit chat, c'est son instinct, ça c'est. Mais c'est quelquefois utile. Hein. On a quelquefois besoin d'un plus petit que soi. Parce que chez le petit chat, c'est très visible. Chez moi, c'est pas visible. Qu'est-ce que c'est que la glace? C'est l'intentionnalité. Je découvre l'intentionnalité, la différence entre ce qui existe vraiment, indépendamment de moi, et ce qui existe par moi. Je suis et moi, mon moi, c'est la découverte d'une doublure en moi. Mais cette doublure, c'est mon jumeau. Dans l'ordre de l'intentionnalité, pas dans l'ordre réel. Vous voyez, les philosophes ont inventé ce mot. Et c'est très beau, ça. Ça, c'est vrai. C'est ce qui est capital. Je suis capable de me construire un monde intérieur. Mais ce monde intérieur n'existe pas indépendamment de moi, puisqu'il provient de moi. Mon je suis. C'est moi qui le crée. Et cela, c'est cette glace intérieure où je vois que tout ce que je fais prend une doublure. Une doublure d'ordre phénoménal. C'est de l'ordre phénoménal. C'est au point de vue de la manifestation. Au point de vue de la manifestation, c'est rigoureusement le parallélisme de moi. Mais si je creuse, cette doublure, elle n'existe pas vraiment. Ça, le petit chat ne peut pas le faire. C'est mon intelligence qui peut faire ça. Et quand je regarde le petit chat qui se regarde dans la glace, je m'amuse beaucoup. Je me dis que c'est extraordinaire. Ce petit chat, il est en train de se gonfler. Qu'est-ce qu'il crée, ce petit chat? Il crée sa doublure, son jumeau. C'est extraordinaire. Il crée l'autre. L'autre semblable à lui. Tout à fait semblable à lui. Et ce qui est merveilleux, c'est que cet autre ne peut pas se défendre. Et je l'aime d'autant plus. Il ne peut pas se défendre. Il ne peut jamais être contre moi. Il est toujours avec moi. C'est ma similitude. Oh, c'est la similitude. Dans l'ordre de l'amitié, c'est merveilleux. Il est semblable à moi. Et il dépend de moi. Il n'existe qu'avec moi. Je suis créateur de ce jumeau. Je suis créateur de cet autre. Cet autre, au plan critique, qu'est-ce qu'il est? Il n'existe pas en dehors de moi. C'est un être que je crée. Un être qui n'existe pas en dehors de moi. Donc, il n'est pas vraiment un être qui existe. C'est un être intentionnel. Mais c'est très très important de comprendre ce qu'est l'intentionnalité. Parce que je vois que l'intentionnalité peut très bien, à un moment donné, s'identifier avec le réel. Quand l'intentionnalité s'identifie avec le réel, c'est ce qu'on appelle l'ontologisme en philosophie. En philosophie réaliste, en philosophie qui distingue le je suis et ceci est, qui distingue l'ami que je vois dans son intentionnalité. Parce que très facilement, je me sers de l'autre comme une glace. Il répète tout ce que je fais. Je suis fusionné avec lui. Et je suis autre que lui. Mais en réalité, je ne suis pas autre que lui. Je vis avec lui. J'ai la réplique parfaite. L'autre réplique toujours ce que je fais. Et quand il ne réplique pas exactement ce que je fais, je me fâche. Il redevient un petit agneau. Tout de suite, tout de suite. Ah oui. Ah, c'est vrai. Ah non, je n'ai pas dit ça. Ah non, c'est vrai. C'est toi. Et je te suis. Vous voyez ce phénomène qui est très curieux. Hein? Je suis capable de créer au-dedans de moi-même mon univers, mon monde. Alors, je dirais, pour critiquer ma bulle. Je crée un monde, des bulles de savon. C'est beau, les bulles de savon. C'est extraordinaire. Ça vient de moi. Je peux les créer. Il faut un peu de savon pour que ça glisse mieux. Et là, c'est la bulle. C'est extraordinaire, ça. Et un jour, je vois que cet univers que j'ai créé, ce n'est pas un univers réel. C'est un univers intentionnel qui vient de moi. L'intentionnalité est très importante pour voir la distance qui existe entre le je suis et ceci est. Entre l'ami que j'aime, semblable à moi, derrière la vitrine. On a eu cette astuce que j'ai trouvée très très jolie. Il y a quelques années, on avait fait au Trocadéro un musée très étonnant, très intelligent. C'était pour fêter un des grands évolutionnistes qui terminait son cours. Alors, on montrait toute l'évolution du Trocadéro. J'avais emmené là quelques-uns de mes étudiants pour qu'on puisse un peu s'amuser. C'était très intéressant. Alors, on voyait l'évolution qui commençait par la mer, progressivement, progressivement. Et l'évolution dernière, quand on sortait une grande glace, on voyait le Parisien. L'évolution se terminait par le Parisien. Je me regardais. Le terme de l'évolution. C'est tellement bien fait que, oui, on trouvait ça très. Alors on souriait. Je me trouvais au terme de l'évolution. Et c'est vrai, je suis au terme de l'évolution. Tant que je vis, hein, il y a un moment que ça craquera. Parce que cette évolution ne dure pas. Pour chacun d'entre nous, elle recommence. J'en avais compris qu'il était. Et c'était la vitrine, hein. Je me regardais. C'est très étonnant de voir comme l'évolution, c'est ça, hein. C'est immanent. C'est l'être qui devient de plus en plus et qui se termine à moi. Et je ne redécouvre pas l'autre, c'est moi. Mon jumeau disparaît. Mon jumeau me montre cette chose étonnante. C'est moi, parfaitement moi, dans l'autre. Et je me regarde. Et je comprends que je suis au terme. Il ne peut rien avoir de plus beau. Il ne peut rien avoir de plus parfait. Alors, je dis ça parce que je crois que c'est très important de voir que c'est par l'amour d'amitié que je vois que moi n'est pas tout. Et le moi demande d'être dépassé par l'autre, l'ami. Et seule la philosophie du ceci est me permet de comprendre que l'autre, c'est l'ami, dans toute sa force, dans toute sa plénitude, mais qu'il y a un piège qu'il faut absolument dépasser, pas regarder l'ami comme ma doublure, pas regarder l'ami comme celui qui me répète, celui qui me suit, celui qui est tout simplement la projection de mon moi. Voyez, là, je dirais, on est obligé, si on a l'expérience de l'amour, on est obligé de comprendre que le je suis, le moi, à un moment éclate dans l'ordre de l'amour d'amitié. Je ne peux pas regarder l'ami comme ma projection. Tant que je regarde l'ami comme ma projection, je ne l'aime pas vraiment. C'est moi que j'aime dans ma projection. Et là, je suis obligé de regarder que l'existence de l'autre, de l'ami, est seule source véritable de mon amour. Je suis source de mon amour, mais ce n'est pas moi qui suis la vraie source de mon amour d'amitié, c'est l'ami. Je distingue là la causalité finale de l'efficience. L'efficience, c'est moi qui aime. Mais celui qui engendre en moi l'amour d'amitié, c'est l'autre qui m'attire. C'est l'autre qui me séduit. C'est l'autre qui est autre et qui est capable de m'attirer. L'attraction. Donc la causalité finale permet seule à découvrir le dépassement de la similitude qui existe. La similitude existe dans l'amour d'amitié, c'est sûr. Mais la similitude a été un moment de ma découverte de l'amour d'amitié. Et s'il n'y a pas eu dépassement de cette similitude pour découvrir l'autre comme source de mon amour d'amitié, je resterai tout le temps dans la projection de moi-même pour l'autre. Et je ne le découvrirai pas. La matière vient au secours de la femme. Quand je suis dans la projection de mon moi, je n'ai pas découvert l'autre. L'autre, je le découvre en tant qu'il est un être individué, un être qui a son existence propre. Et c'est ça l'individuation qui vient de la matière. Avant de découvrir l'autre complètement spirituel et de découvrir l'autre qui est Dieu. Dieu, c'est l'autre qui est tout autre. Qui est tout autre, mais dans l'ordre de l'être. Et par l'ordre dans l'être, il est plus proche de moi que moi-même. Et donc c'est un autre qui est vraiment tout autre, mais qui est en même temps plus moi-même que moi, puisqu'il est la source de ce que je suis. Vous voyez? C'est différent de la simple recherche du « ceci » et « je suis », mais c'est la conséquence. Et cette conséquence, quand on la voit du côté de l'amour, est plus parlante pour moi. Parce que ça, je l'expérimente. Je peux expérimenter tous les jours que l'amour d'amitié que j'ai pour telle ou telle personne, tel ou tel frère, telle ou telle sœur, cet amour d'amitié me fait découvrir l'autre qui me transcende, qui me dépasse, qui est toujours pour moi un certain mystère. Parce qu'il est autre et qui n'est pas moi. Tandis que si je reste dans mon moi, je projette mon moi sur l'autre et je ne découvre pas la transcendance de l'autre. Et je deviens tyrannique. Quand je reste dans mon moi, je deviens tyrannique. Parce que je ne veux pas que l'autre soit distinct de moi. Parce qu'il fait craquer l'intentionnalité et m'oblige de voir qu'il y a autre chose que l'intentionnalité. En réalité, ceci est. Vous voyez, par là, je dépasse cette prison d'or qui est mon intentionnalité, où je demeure dans mon moi. C'est une prison d'or, hein, c'est moi. Mais je n'en sors pas. Comment en sortir? Jugement d'existence. Mon ami existe. Il est pour moi celui qui existe d'une manière impérative. Il me transcende. Il est là. Son existence, je n'ai aucun pouvoir sur son existence. Il peut mourir avant moi. Et je peux mourir avant lui.